L'idée a germé donc de ce dispositif ressources sur l'année scolaire 2011-2012, suite aux assises de l'éducation prioritaire à Angers. On était allé avec mon collègue, on est revenu plein d'idées, puisqu'à chaque fois qu'on va quelque part, on revient plein d'idées. Là, on va repartir ce soir plein d'idées aussi, c'est sûr. Et on s'est dit, on va faire une unité relais interne dans notre collège, comme a dit notre collègue tout à l'heure. Et puis on a discuté, on a vu la mise en place, et on s'est dit, mais quand on envoie des élèves en classe relais et qu'ils reviennent, le retour se passe pas forcément bien. Donc les soucis, on va les traiter dans la classe, in situ, à côté de l'élève qui est éventuellement ou en difficulté comportementale ou en difficulté scolaire. Et c'est là qu'a germé l'idée du dispositif ressources avec un S, puisque ressources pour les élèves, mais aussi ressources pour les professeurs qui sont aussi en difficulté face à cette difficulté. Alors, on a réuni une équipe de pilotage avec des enseignants volontaires et partants pour cette expérience. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure de dire il va falloir ramener des adultes en classe pour observer les problèmes dans la classe, puis analyser ces problèmes et traiter les problèmes dans la classe. Tout se passe dans la classe. Alors il y avait des conditions au préalable, évidemment, c'était d'avoir une équipe, un collectif, et ça on l'avait. On a une équipe d'enseignants qui est motivée, on travaille vraiment tous ensemble, et de ce collectif, du travail collectif, on a voulu aller vers un travail collaboratif. On fait une nuance entre les deux. Et puis donc on s'est réunis et se sont posées tout d'abord les questions, mais oui, mais si un enseignant vient observer un cours dans ma classe, il n'est pas inspecteur, est-ce qu'il va nous juger? Vous imaginez bien tout ce qui a pu se dire. La parole a circulé librement et on a dit, mais il n'est pas question de ça, c'est une question de confiance. On vient pour observer ou un climat de classe, ou un élève, ou un groupe d'élèves, et on vient pour essayer de trouver des solutions vers l'élève. Et donc, sur la base du volontariat, beaucoup de professeurs au départ se sont inscrits dans ce dispositif. Certains n'étaient pas d'accord, ne voulaient pas ouvrir leurs portes. Et ça nous a pas choqué plus que ça. C'était normal, c'était au choix. Et donc, on s'est donné trois profils d'élèves éventuellement à observer. Alors, des élèves en rupture avec l'institution, risque de déscolarisation, absentéisme, conflits fréquents et relations difficiles aux autres, manque de maîtrise de soi, de ses paroles, de ses gestes, de ses émotions, mépris de l'autre, perturbations graves et répétées de cours, élève en représentation ou jouant de son pouvoir de séduction et d'intimidation. Ce qu'on appelle les élèves acteurs, là, qui sont, ils sont en représentation constante toute la journée. Et voilà, c'est un souci pour les enseignants de pouvoir faire cours avec ce type d'élèves. Deuxième profil d'élèves, les élèves régulièrement perturbateurs. Donc, ça rejoint un petit peu avec certains élèves qui sont en rupture, deviennent perturbateurs. Et un troisième profil d'élèves, les décrocheurs passifs. Ceux qui ne posent pas de problème de comportement en classe et qui ont complètement renoncé, qui n'ont pas de matériel, qui ne travaillent pas, qui sont parfois absents. Voilà. Donc on est parti là-dessus. On a envoyé le 10 septembre 2012 un compte-rendu aux professeurs. Je vais vous en lire un exemple qui va un peu illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons bien conscience que le dispositif touche deux points sensibles dont nous avons beaucoup discuté lors de la réunion. La présence d'un adulte supplémentaire en classe bouscule un peu nos habitudes et celles des élèves. Elle vise à lutter contre un certain cloisonnement de nos enseignements. Elle ne remet pas en cause l'enseignant responsable de la classe qui reste maître de sa pédagogie. Il ne s'agit en aucun cas d'établir une hiérarchie ou deux catégories d'enseignants. Ce dispositif doit être vu comme un prolongement en classe du travail d'équipe qui est le nôtre et de la confiance que nous nous accordons. Qu'il s'agisse d'un temps d'observation ou d'accompagnement pédagogique d'un élève, il va de soi que seuls les collègues ayant accepté le principe seront concernés. Personne ne doit se sentir exclu dans la fonction qui est la sienne. Voilà, c'est le courrier qu'on avait envoyé aux enseignants en septembre 2012. Et on a commencé donc des observations en classe. Alors, ces observations se font de la manière suivante. Sur une classe ou sur un groupe d'élèves ou sur un élève, on fait au moins deux, voire trois observations par trois adultes différents, dans trois cours différents. Ces observations sont faites à l'écrit. Alors on a fait un espèce de storyboard où on a minuté le temps de cours. C'est notre vidéo écrite, on appelle ça comme ça. Alors j'étais très sensible à ce qu'on a entendu sur Neopass Action, sur l'utilisation de la vidéo. On verra si ça peut faire évoluer notre dispositif. Donc l'enseignant qui observe la classe a cette grille et note à chaque minute ce qui se passe dans le cours. tel élève n'a pas encore sorti ses affaires, tel élève est en train de faire autre chose, tel élève ramasse, comme on disait hier, sa règle. Au bout de 20 minutes, tel élève a arrêté de travailler, discute avec son voisin, se lève, va mettre une claque à un autre, revient s'asseoir. Voilà, ça arrive malheureusement. Et trois observations croisées. À partir de ces observations, il y a un coordonnateur dispositif ressources qui recueille ces observations, qui fait un bilan, et on se retrouve en réunion de diagnostic. Dans cette réunion, il y a toute l'équipe pédagogique, la direction, la CPE, et éventuellement, si il y a eu des observateurs qui ne sont pas de l'équipe, parce que c'est aussi possible, un enseignant qui n'a pas la classe peut aller observer la classe. Petite info, on était un collège de 250 élèves en 2011. Aujourd'hui, on a 310 élèves, trois ouvertures de classe. Donc, on connaît bien tous nos élèves. Donc, à partir de cette observation et de ce bilan diagnostique, on va mettre en place des actions. Alors, il y a eu mis en place des actions de tutorat. Donc, tutorat par des enseignants. Il y a eu mis en place des actions de tutorat élèves. Aussi. Des échanges se sont créés entre les enseignants aussi sur leur manière d'enseigner, sur des passations de consignes qui éventuellement n'étaient pas claires. Donc ça a permis au moins d'ouvrir la discussion sur l'axe de la pédagogie. Et aujourd'hui, notre dispositif ressources, on veut vraiment l'orienter beaucoup plus là-dessus que sur la discipline entre guillemets en classe. Voilà. Que vous dire d'autre ? Toutes les actions menées sur un élève ou un groupe d'élèves ont été faites après une contractualisation avec les parents. On a à chaque fois rencontré les parents d'élèves, expliqué le pourquoi des choses, pourquoi on mettait en place un dispositif particulier. Et il y a eu un ressenti derrière tout ça assez positif. On a présenté ce dispositif au comité de pilotage, donc dans le cadre du réseau. Donc les enseignants du premier degré aussi savent comment ça fonctionne, ce qui a été mis en place. Le secrétaire du réseau qui intervient 3 heures environ tous les 15 jours dans notre collège peut intervenir aussi dans le cadre du dispositif ressources. L'IA IPR référente, pour vous dire que c'est vraiment une action qui est devenue maintenant... qui a pris un peu plus d'ampleur, où tout le monde s'est mis dedans. Donc notre IA IPR référente a assisté cette année, en début d'année, à des observations de classe, puis à des synthèses, puis à des tutorats en classe pour voir comment ça fonctionnait. Donc les effets positifs sont d'abord des effets sur la classe, sur l'élève ou le groupe d'élèves. Il y a eu un effet sur le travail collaboratif des enseignants. Les portes des classes sont quasiment toutes ouvertes aujourd'hui. Il y a un sentiment aussi très positif de la part des élèves qui étaient vraiment en rupture, qui se sont dit, là, on s'occupe de nous, on s'intéresse à notre réussite, et avant, on s'intéressait à nos échecs. Et puis, donc, le point actuellement, qui est un point perfectible de notre dispositif ressources, au moins un, parce qu'il y en a sûrement d'autres, c'est de dépasser l'axe métier d'élève pour aller vers un axe plus sur la pédagogie. Voilà. Ça a eu un coût, tout ça, vous pensez bien, parce qu'il a fallu que les enseignants puissent aller observer dans les classes sur leur temps libre. Il a fallu que les enseignants puissent aller tutorer des élèves dans les classes sur leur temps libre, aller faire de la co-animation, puisqu'il y a aussi des moments où des actions ont été des actions de co-animation. Et ça a coûté environ 90 HSE par trimestre. Donc le DAZEN adjoint nous avait débloqué sur notre projet 90 HSE au premier trimestre et nous avait dit pour l'instant vous n'avez que ça. Et on verra au deuxième trimestre, suivant ce que vous avez mis en place, suivant les résultats de ce dispositif. Et donc ça a fonctionné l'année dernière, donc l'année 2012-2013 en totalité. Et puis cette année c'est reconduit. Et aujourd'hui, notre objectif est d'axer la pondération 1,1 sur le dispositif ressources.
On voit bien comment, évidemment, c'est la question qu'on posait avant-hier, hein, comment le 1,1, là, on a des exemples, encore une fois, de à quelles conditions un dispositif, et tu as raison de dire qu'il y a bien un dispositif, et par rapport à la discussion précédente, hein, à quel moment un dispositif, c'est quelque chose qui vient en appui à un système pour que ce système prenne ses responsabilités et renormalise, pour reprendre le terme de ce matin, c'est-à-dire il y a un métier, le métier d'enseignant, un enseignant, une classe, un espace, c'est la norme. Si on veut que cette norme change, il faut prendre au sérieux le fait que c'est difficile. Il ne s'agit pas de juste injoncter le changement. Donc, il y a une volonté, il y a un dispositif qui va servir un projet qui n'est pas externalisé sur quelque chose de l'extérieur, mais ramené vers l'intérieur de la classe. Mais quand même, la question qu'on a envie de poser, c'est, tout le monde se dit, j'adorerais qu'il y ait ça dans mon collège. Et ce qui est la question, c'est la question que vous posiez, ce groupe-là, à l'issue du premier temps de travail, lundi, comment est-ce qu'on développe les conditions du travail collectif? Ce travail collectif, finalement, on s'aperçoit que ça peut être des binômes, des trinômes, mais si on te dit, remets-toi en tête les difficultés que tu as eues, ou que l'équipe a eues, au moment où vous avez lancé ça, qu'est-ce qui a été les conditions, qu'est-ce qui a été les obstacles, qu'est-ce qui a été les microscopiques leviers, qui font que progressivement, ça diffuse et ça gagne dans le collège?
Je pense que les conditions, ça a été des conditions de confiance et d'investissement de la direction sur le terrain. Pendant des mois, voire une année complète, avec mon collègue, on est tout le temps dans la cour, on est tout le temps dans les couloirs, on est tout le temps parfois en classe avec des enseignants qui ont des difficultés. Et certains ont commencé à nous faire confiance comme ça, en nous dire « Est-ce que vous pouvez pas venir en cours avec nous parce que cette classe-là, elle est ingérable ?» Alors on emmenait du travail, on se mettait au fond de la classe. Et on n'était pas du tout dans le jugement du cours, mais plus dans l'accompagnement d'un enseignant qui rencontre des difficultés. Et je crois que le collectif et la confiance ont été les préalables à la mise en place de ce dispositif ressources. Alors peut-être est-ce lié à notre culture tous les deux, à la direction d'anciens profs de PS, entraîneurs de sport collectif. Je ne sais pas, mais voilà, on a une relation avec les enseignants qui est une relation d'équipe. Ce sont nos collègues et on travaille tous ensemble, quoi. Voilà. Il y a eu une poignée, une grosse poignée d'enseignants qui étaient très partants d'abord dans cette aventure. Et ça a permis, du coup, ben voilà, de faire un effet boule de neige qui en entraînait un petit peu d'autres et encore un peu d'autres. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une enseignante contractuelle qui ne veut plus qu'on aille dans sa classe parce que malheureusement elle est en difficulté et elle a l'impression d'être jugée. Elle a eu deux observations dans sa classe cette année, elle a vu que ça se passait mieux et quand il n'y a pas d'observation dans sa classe, elle n'y arrive pas, donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Donc c'est quelque chose qu'on doit retravailler, mais sinon aujourd'hui c'est quasiment tous les enseignants qui sont impliqués dans ce dispositif.
Allez, d'autres questions encore, hein. Vous êtes chez l'établissement à sa place et vous avez envie de le questionner sur c'est quoi les trucs et allez, tu ne nous dis pas tout là. La position syndicale dans l'établissement, on dit toujours,
il y en a pas.
Toujours une section syndicale.
Il n'y en a pas.
Je dis ça parce que je sais qu'il y a des collègues ici qui ont une responsabilité syndicale.
On a quelques délégués syndicaux, mais qui sont très gentils avec nous. Il n'y a aucun problème de syndicat dans notre établissement. Quand on a parlé de la pondération et de dire, mais peut-être qu'une heure et demie de pondération, vu que c'est pas de l'heure face à face élève, c'est peut-être 3 heures. On s'est tous posé la question.
Donc, il y a des syndicats gentils et des syndicats méchants.
Ben nous, on a que des gentils. Je sais pas.
Je suis pas sûr que ce soit la bonne caractérisation.
Si on peut donner des noms aussi.
Allez, d'autres points de vue, témoignages.
Pour info, je laisserai ce doc là qui est assez important, où là par exemple c'est le tableau de disponibilité des observations, tutorat d'élèves et co-animation, donc toutes les heures de cours avec tous les profs qui étaient OK. Alors ça c'était au tout début, hein. Depuis c'est un peu plus fourni. Notre fiche d'observation, voilà, 5e minute, 10e minute, 15e minute. Des réunions, observations par un tel dans tel cours, réunion diagnostique, réunion de suivi, ce qui a été mis en place.
Le travail de production de documents, là, qui l'assure concrètement?
Alors, il y a eu un coordonnateur au départ qui est un enseignant, qui était très partant dans ce dispositif avec nous. Donc on a travaillé ça à trois, la direction plus cet enseignant qui avait une lettre de mission puisqu'il a été recruté sur entretien. Et on lui a un petit peu suggéré nos idées quand on a recruté cet enseignant, enfin recruté entre guillemets, quand on a donné notre avis favorable pour qu'il soit en poste chez nous. Et puis cette année, ils sont trois. Parce que c'est très très lourd à gérer, c'est hyper chronophage, vous pensez bien. Alors ils sont payés en. Alors eux, la lettre de mission, c'est le. Ils ont une prime. En éclair, ils ont une. La prime annuelle, elle est là-dessus pour eux. Par contre, après, chaque intervention. Non, on n'a pas de préfet des études chez nous, parce qu'on s'est dit qu'on était tous préfets des études. Voilà. Parce que les missions du préfet des études, dans un petit collège comme ça. On se disait qu'on était tous concernés par tout ce qui se passait, et on l'a un peu modifié.
Et donc ils sont à 18h ou à 15h?
Voilà, ils ont une prime annuelle. Ah, voilà, ça revient à ça. Et sinon, c'est payé en HSE. Chaque intervention dans la classe d'un professeur en co-animation, c'est une HSE à chaque fois.
Les donc. Ils sont payés de ne pas pleurer.
Ouais. Ouais. Alors la réunion.
Je suis pas sûr que tout le monde ait entendu la question.
Alors donc c'est qui anime la réunion diagnostique et comment sont choisies et mises en place les actions. Alors la réunion diagnostique est copilotée donc par l'enseignant copilote du dispositif ressources qui a le niveau de la classe et le chef d'établissement. Alors nous on s'est aussi partagé les niveaux de classe. Moi, je prends les 6e et les 4e, et mon collègue prend les 5e et les 3e. Donc, je ne fais pas toutes les réunions du dispositif ressources qui ont lieu souvent à midi et demi en semaine. Et mon collègue fait les autres. Donc, ça nous permet de temps en temps de manger autre chose qu'un sandwich. Et les enseignants, du coup, aussi se sont répartis, les trois enseignants, les classes. Donc, sur les réunions diagnostiques, il y a toute l'équipe pédagogique, au moins. On essaye. Il peut manquer 2-3 enseignants, mais il y a un maximum de personnes de l'équipe pédagogique. Et les décisions sont pensées en amont, mais discutées pendant cette réunion. Et on prend des décisions à cette réunion, ou en réunion diagnostic, ou en réunion de suivi. Et il se peut, quand des fois il y a eu quelques réunions, on s'est dit, on se revoit demain. Parce qu'on n'a pas pris de décision, on n'a pas eu le temps, on a trop parlé. Et voilà, il faut faire attention à ça aussi, quoi.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir, au niveau des actions donc, que vous mettez en place suite aux observations, première réunion, bon, tu as parlé du tutorat. Est-ce qu'il y a d'autres types d'actions? Est-ce que c'est lié au profil? Est-ce que, enfin...
Alors, il y a eu de mis en place du tutorat par un professeur auprès d'un élève ou auprès d'un groupe d'élèves. C'est-à-dire que le professeur s'est assis à table avec les élèves dans la classe. À côté de l'élève qui a des difficultés éventuellement de concentration, de mise au travail, ou entre deux. Et on s'est rendu compte que ça faisait aussi, ça touchait un petit peu tous ceux qui étaient autour, quoi. Il y a eu du tutorat élève-élève, là plus pour des élèves qui tout d'un coup partent sur autre chose, petit coup de coude. On est rendu là, page 12, tu peux t'y mettre, c'est assez simple. Il y a eu des actions aussi de co-animation en classe. Du coup, 2 enseignants sont dans la classe. Alors après, à eux de voir quelle modalité ils veulent mettre en place sur le cours. Est-ce que c'est un cours à deux? Est-ce que c'est l'enseignant de la matière qui fait cours et l'autre va sur les îlots différents aider les élèves en difficulté qu'on aurait ciblés ou aider la classe? Il y a eu aussi des fiches de suivi qui ont été mises en place pour certains élèves avec un suivi hebdomadaire. Alors, ou par un professeur, ou par un membre de l'équipe éducative, ou par un membre de la direction. Par exemple, là, on a un suivi pour un élève, Libento, on ne sait pas qui c'est. Et il a un suivi sur son matériel. Ça, ce sont les feuilles de route avec le tutorat d'un professeur qui devait le rencontrer régulièrement. Donc, des critères de fiches de suivi, des bilans. Avec les profs qui sont présents, des fiches d'observation. Et ça, c'est par exemple un bilan étape où on a toutes les décisions qui ont été prises. Et j'avais noté, les 2 enseignants pourront décider au préalable jusqu'où ils souhaitent pousser la co-animation à leur convenance. C'est quelque chose qui était très clair. Ensuite, il y a eu un bilan qui a été fait, je dois être là-dessus, là. Le bilan est globalement positif. Les enseignants qui ont bénéficié de la présence d'un collègue supplémentaire à leur côté ont beaucoup apprécié. Cette présence supplémentaire a profité à la classe, notamment dans la mise au travail, la compréhension des consignes et une concentration accrue pour quelques élèves qui ont tendance à s'égarer un peu. Madame Hervé constate que des habitudes sont prises qui perdurent en dehors de la co-animation. Cette stabilisation est encourageante et doit être consolidée. Voilà, ça c'est un exemple de bilan étape. Et des fois, au bout de 2-3 mois, il faut qu'on recommence. Parce qu'on sait que nos élèves, la stabilisation, c'est pas tout à fait ça. Et il faut en remettre. Maintenant, voilà, des fois, on se dit, on a vachement bossé sur cette classe, on a mis du temps, c'était mieux, et puis pom, ça repart, quoi. Mais c'est pas grave, c'est notre métier, donc on recommence. Mais on sent des petites choses. Libento, dont vous avez vu tout à l'heure l'affiche, je pense à lui parce que cette année, à un moment, à la récréation, il a couru dans la cour avec une feuille à la main. Il m'a appelé, monsieur Vasse, venez voir. J'ai eu 10 sur 10 en maths. Et donc sa copie, il fallait que je l'ai dans mon bureau parce qu'il fallait que je la garde. Il m'a dit que je pouvais la garder. Et voilà, des moments comme ça, c'est un gamin qui était décrocheur l'année dernière en début d'année. Il a des difficultés, c'est toujours compliqué pour lui, mais on sent qu'il y a un petit... Ça a donné un peu de sens pour lui. Le mot école, le mot apprendre, ça a donné un petit peu de sens. Et ça, voilà, c'est, si on a au moins gagné ça, c'est toujours, c'est déjà pas mal. Mais c'est un combat quotidien, évidemment.
Ce qui est important, là, peut-être, c'est que... Pardon, vous voulez rajouter quelque chose ?
En fait, c'est le premier profil qui m'interroge. C'est ce que vous définissiez, là, élève en rupture consommée, acteur de cette rupture, donc qui pèse lourd dans un groupe, dans une classe et même au sein dans le collège souvent. Ils sont pas nombreux, mais en même temps, voilà, moi c'est par rapport à cela quel type d'action, parce que ce que vous décrivez, j'ai bien senti que chez vous il y avait une grille, une procédure qui permet à chacun de travailler de la même manière et qui permet d'articuler les échanges, le dialogue, tout ça, je l'ai senti. Par contre, c'est sur le premier profil. Quel résultat, quel type d'action, enfin, parce que là, pour nous, souvent, c'est ceux qui nous posent le plus de problèmes. C'est ceux qu'on met en dri parce que justement, si on les laisse en classe, ça explose et on veut éviter le conseil de discipline. Enfin, voilà, et souvent, on échoue.
C'est intéressant, si je peux me permettre d'essayer de généraliser un peu sur cette question de la co-intervention ou du regard croisé. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que tu n'as pas développé, je voudrais qu'on le redéveloppe. C'est-à-dire, au bout d'un an, là, au bout d'un certain temps, ça nous amène à... Il faut qu'on se réoutille sur les questions du pédagogique. Je vais te demander tout à l'heure de préciser, mais avant ça, je voudrais juste faire une petite insiste. Il me semble que c'est intéressant, votre discussion, parce que discuter de ces questions de la co-intervention, en fait, c'est discuter de à qui ça profite la co-intervention. Et on pourrait dire ça, la même chose sur le dispositif plus de maîtres que de classe dans le premier degré. C'est la même chose. On a tendance à se dire qu'un dispositif, c'est quelque chose qui va permettre d'identifier les gamins et de traiter. Là, ce que vous dites, c'est qu'on réinternalise la question de la difficulté scolaire. Et donc, en fait, ce qui est la question intéressante toujours quand on accompagne ces dispositifs, c'est qu'est-ce que ça va faire pour les gamins, mais qu'est-ce que ça va faire pour les enseignants? Est-ce que le dispositif en lui-même, il est transformateur du regard des enseignants? Et nos collègues de Valence, ils ont passé beaucoup de temps hier à nous dire que finalement, la question essentielle pour eux, c'était la transformation du regard sur « je passe de l'origine de la difficulté, je le reprends dans mes mots, ils n'ont pas dit ça comme ça, à « je comprends la nature de leur difficulté ». Et comme on est, Haute de la Touche nous a dit hier, on est deux à réfléchir, on est plus intelligent à deux, on va se poser des questions sur, mais finalement, en quoi ce qu'on a proposé comme situation d'apprentissage, ça permet d'apprendre. Je voudrais juste vous citer un témoignage qui parle un peu de ça, à partir des collègues de Besançon, avec qui on a travaillé dans le dispositif, notamment sur plus de maîtres que de classes. Quand on demande au cours d'eau, Coralie qui est là, finalement, ça fait longtemps que sur notre territoire, il y a des maîtres supplémentaires. En éducation prioritaire, tout le monde sait qu'il y a des maîtres supplémentaires depuis longtemps. Qu'est-ce que ça change? Je reprends un certain nombre d'écrits. Hein. Au début, l'institution, elle dit beaucoup qu'il faut favoriser la co-intervention. Avec l'idée, plus vous allez faire des groupes séparés et plus vous allez écarter les niveaux. Vous allez faire des groupes de besoins pour les faire, ça risque. Et puis, il faut que toute la classe profite des apprentissages. Donc, l'institution, elle prescrit assez fortement co-intervention, co-intervention, co-intervention. Et des fois, les enseignants, ils résistent à ça. Ils disent, mais attends, c'est gentil, mais Kevin et Vanessa, si vous pouvez m'en débarrasser pendant une heure et qu'elles travaillent en petit groupe là-bas, moi, ça va me reposer et elle, il y a quelqu'un qui va m'écouter. Et les enseignants ne sont pas forcément tort là-dessus. Alors, ils disent, enfin, Coralie dit, le travail avec le maître supplémentaire a été vécu par une vraie richesse par les équipes, parce que ça permet la rencontre, les échanges de pratiques, d'autant plus que c'est réoutillé avec des apports. C'est-à-dire qu'il y a des formateurs, des inspecteurs qui viennent et qui disent, voilà, cet outillage pédagogique, donc tu vas nous dire un mot, mais je finis ça. Mais, dit-elle, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que ce qui fait vraiment quelque chose sur la réussite des élèves, c'est l'investissement des enseignants. Marc Bagley l'a dit lundi. C'est parce que les enseignants se disent, on peut quelque chose et on y va, qu'ils vont accepter de dire, ouvrir sa porte, c'est aussi développer notre travail, renormer notre travail. Là où on pensait que notre travail, c'était seul face à des élèves, et tu as raison d'insister sur le fait que des fois, les enseignants disent, bon, non mais mes collègues, ce n'est pas mes inspecteurs. Seul l'inspecteur a le droit de regarder mon travail. Et là, on passe à de la coopération comme étant un moteur de l'activité. C'est parce qu'on coopère qu'on va mieux se sentir au travail. Du coup, ça va leur permettre, mais j'insiste, c'est pas spontané au départ, et tu l'as dit parce que ça n'arrive que dans une deuxième phase. Une fois qu'on a passé ces co-observations, et à Besançon ils ont fait ça, ils ont commencé à regarder la perturbation scolaire, progressivement va se mettre en place un travail sur mieux préparer, mieux anticiper. Il y a telle nature de difficulté, donc c'est quoi la séance didactique dont on a besoin? Et on reprend le travail que vous avez fait à Valence à partir de l'analyse de Coucher. C'est quoi l'entrée en place? C'est quoi l'entrée en tâche? C'est quoi les passages à risque? C'est quoi les passages à risque? On est en train de faire ça. Où est-ce qu'on va avoir des choses qui vont mettre en difficulté les élèves? On l'a anticipé, on l'a préparé. Et bien là, ça va mieux se passer. Parce qu'un prof en difficulté, c'est un prof qui ne comprend pas ce qui va se passer quand il va faire sa fiche de prêt et qui ne va pas se passer ce qu'il a prévu. Il ne l'anticipe pas et il n'a pas la compétence que nous on appelle réagir en vol. On est dans l'avion, on pense que ça va bien se passer et puis on se prend le culot d'un bus qui arrive, on ne l'a pas vu arriver et on est dedans et voilà. Et les pilotes d'avion, ils ont une formation à qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un culot d'un bus qu'on n'a pas prévu. Et puis, vous avez parlé aussi, qu'est-ce qui se passe dans la phase d'institutionnalisation? Elisabeth Boutier nous a dit, la phase de qu'est-ce qui se passe du point de vue du savoir? Comment on l'organise? Comment on fait pour ne pas donner les devoirs en braque à la fin, etc. Et c'est là que ça va permettre d'améliorer les pratiques. Et du coup, l'effet sur les élèves, il est évident qu'il est difficile à mesurer, parce que souvent, il y a beaucoup de dispositifs, mais dans ce que vous nous dites à Besançon, l'évaluation, c'est l'augmentation du nombre d'élèves en réussite les années suivantes. Une école du même quartier, entre ceux qui disposent de l'intervention croisée et ceux qui n'en disposent pas. C'est ce que vous nous avez dit aussi avec vos trois classes témoins. Enfin, voilà. Quelque part, on peut mesurer les impacts, mais encore faut-il savoir à quel niveau on mesure. Stéphane Cus nous a bien rappelé ce matin que regarder les résultats d'un collège, c'est une chose. Les regarder d'un collège selon la commune d'appartenance, c'est autre chose. Donc, cette question de plus de maîtres, bénéfice pour les élèves ou bénéfice pour les profs, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Et qu'on ne soit pas tout de suite dans remédiation, dispositif, identification des problèmes, tuyaux et hop. Donc, dans l'année prochaine, si vous dites qu'il faut qu'on travaille davantage la pédagogie, toi, tu reviens de ces trois jours et une idée que tu vas avoir envie de faire bosser à tes profs ou d'aller chercher des ressources de formateurs avec les profs sur ces questions pédagogiques, même si c'est un peu en vrac. Ou...
Déjà, je vais répondre aux collègues. Sur les élèves très, très difficiles, ce qu'on a mis en place, c'est du tutorat par un prof à côté de l'élève, dans la classe. Voilà. Des réunions avec les, enfin des rencontres hebdomadaires avec l'élève pour le valoriser, lui dire qu'il est sur la bonne voie et tout, ça reste compliqué évidemment et fragile. mais c'est ce qu'on s'est dit, on traite quand même dans la classe. Alors par moment, il a fallu externaliser la situation parce que ça devient trop problématique. Dans ce cas-là, ce tuteur, prof, parce que c'est toujours le même, choisi par l'élève, ben, voit l'élève, retravaille là-dessus, sur le sens de l'école, etc. Mais voilà, c'est l'unique solution qu'on a pour, je vois tout à fait le profil d'élève dont tu parles, les gros gros perturbateurs qui ne font rien, c'est les accompagner dans les tâches d'apprentissage, comme ça. Voilà, avec un adulte. Sur le plan de l'axe pédagogique, on est parti là cette année, et pour l'instant c'est à l'état de projet sur le travail de l'oralisation en cours, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés énormes à l'écrit et qui peuvent être valorisés par l'oral. Il y a ça, un travail qui commence à se faire de plus en plus aussi sur la corrélation entre différentes matières où les professeurs commencent à travailler ensemble, parce que quand on regarde les programmes en histoire géo, en français, en latin, y a plein de choses qui sont redondantes et il y a donc moyen de travailler ensemble. On a eu aussi des actions qui ont été mises en place communes en latin, musique, français, anglais, mais pas des projets, vraiment des cours, quoi. Il y a du travail à faire là-dessus, on en a conscience. Commence à se mettre en place aussi dans certaines classes des îlots de travail, mais ce sont des îlots hétérogènes avec une co-animation où les élèves travaillent ensemble, mais il y a besoin d'un deuxième enseignant. Mais voilà, on est sur la voie de la recherche et on aura effectivement sûrement besoin de formation là-dessus.
Donc sur la question de l'oral, hein, je renvoie aussi à ce qu'Elisabeth a fait hier, hein, sur travailler avec les professeurs sur le rôle de l'oral, oral communicationnel ou oral pour accéder à la langue du savoir et à partir de travailler sur les vidéos, etc., ce que nous ont montré nos collègues de Valence. On voit bien comment là, les choses s'enchassent. Hein. On reprendra ça cet après-midi avec la question de quels sont les axes qu'on essaie de travailler pour l'année prochaine dans notre réseau. C'est toujours le même fil. Je voudrais juste finir là-dessus avec cette idée qu'on a en analyse du travail et que je reprends à partir du travail de Françoise Lantôme, que j'ai déjà cité, qui est une professeure de Lyon 2, qui travaille notamment, qui a publié un bouquin qui a beaucoup d'écho, qui s'appelle « La souffrance des enseignants », et qui dit... À chaque fois qu'on veut changer le métier, l'injonction au changement, elle est permanente dans nos métiers. Et donc, si on veut sortir de l'injonction, il faut parler de développement du travail. Comment est-ce qu'on développe? Comment on fait pour que les changements, ce soit faire ce qu'on n'arrive pas encore à faire? Eh bien, elle, à partir de son regard à la fois historique, sociologique et d'analyse du travail, elle dit qu'il faut se garder d'arrêter de parler tout le temps de résistance. Si les gens dans l'accompagnement personnalisé en lycée professionnel ou dans la mise en place des rythmes ou je ne sais pas quoi, on dit toujours que les gens résistent comme s'il y avait une espèce de truc dans l'individu qui font que par nature, un individu, plus il devient vieux et plus il devient rassis et incapable de penser. Ben, peut-être que si on regarde ça en termes de... Si on veut que les gens changent, il faut qu'on fasse le rapport qualité-prix à chaque fois. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Il faut qu'on traduise. On me demande de faire ça dans l'accompagnement personnalisé. Qu'est-ce que ça va me demander pour moi, concrètement? Mais alors, vous voulez dire, je fais moins d'heures de cours, vous me donnez la classe de 25 tous ensemble, et il ne faut pas que je refasse du cours, il faut que je fasse de l'accompagnement personnalisé. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Eh bien, je ne connais pas un seul IPR ou inspecteur chargé de la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé qui, dans le privé, quand on discute après la formation et qu'on voit une bière, me disent ce prof qui a dit ça dans la formation et que je ne lui ai pas dit. Enfin, comment on fait de l'accompagnement personnalisé en classe de 25 sans faire cours? Ben, c'est normal que ce ne soit pas facile. Ça ne veut pas dire qu'on en reste, on ne change rien. Mais enfin, oser se dire pourquoi c'est compliqué, c'est important parce que ça va demander de la traduction, de la recherche d'informations, de la négociation, des ajustements, faire face aux épreuves, faire des ressources, dit Françoise Lantôme, et ça va demander un bouger identitaire. Et Françoise a cette phrase, elle dit toujours, les identités professionnelles changent comme des paquebots, comme des continents. Hein. C'est pas, vous ne prenez pas un paquebot et vous ne lui dites pas, dans 10 minutes, il faudra que tu fasses 90 à droite. Il va falloir 3 heures pour que tu changes de route. Et plus on est sur des contexte. Et vous avez vu à travers tous vos témoignages que
Les établissements ne sont pas égaux selon l'histoire, selon le leadership, selon les valeurs, selon la situation, selon le contexte. Et évidemment, ça veut dire que l'articulation entre pilotage local, pilotage académique, pilotage national, il va falloir qu'elle en tienne compte. Parce que l'injonction en disant « Allez-y, innovez les petits gars, on est derrière vous », ça met juste les pilotes dans un dilemme infernal. Hein, on est pilote, il faut qu'on fasse autorité, mais il faut qu'on fasse consensus. Il faut qu'on soit innovant, mais il faut qu'on soit respecter les règles. Ben vous aussi, en tant que pilote, vous avez sans arrêt des tensions dans le travail. Et si vous ne réclamez pas d'avoir des espaces collectifs pour que l'interaction entre le pilotage de terrain et le pilotage... voilà, où sont les espaces où collectivement, les chefs d'établissement, des inspecteurs, les coordonnateurs peuvent discuter de leur boulot. Et toi, concrètement, comment tu fais? Quel micro-truc tu as essayé, etc. Vous savez bien que ce n'est pas dans les régions de bassin que ça se fait. Parce que dans les régions de bassin, ça descend. Ok? Donc, on essaiera de continuer un petit peu cette piste-là.
J'avais juste oublié de dire quelque chose dans les actions qui ont été mises en place, et c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi un travail qui est fait avec notre coordonnatrice programme de réussite éducative sur Nantes. Et donc à la suite de certains diagnostics, on se dit il faudrait peut-être justement déclencher un PRE pour tel ou tel gamin. Et du coup, on part sur un diagnostic réel avec une contractualisation qui se fait au collège avec la coordinatrice du PRE, avec l'étudiant ou le professionnel intervenant dans la famille. Donc le lien se crée aussi via le dispositif ressources. Je me suis dit quand même qu'il fallait en parler, on en avait parlé juste avant. Voilà, le lien.